Ta-da-dam! C'est maintenant le tour à Marcel Dugas. Bonjour Marcel.
Bonjour, comment allez-vous?
Ça va très très bien. Alors aujourd'hui, vous allez nous parler finalement d'un fait historique qui, pour certains, ça serait intéressant de répéter peut-être un modèle similaire de nos jours. Ce certain-là, c'est un président américain qui a des visées expansionnistes, hein, notamment vers le Groenland.
Oui, Donald quelque chose, son nom.
Oui, je sais, ça vous avait échappé. Yves-Jacques. Et on n'a pas eu le temps de chercher depuis ce temps-là. On s'est concentré sur Yves-Jacques.
Voilà.
Alors, on se rappelle un autre grand achat, c'est ce que vous allez faire avec nous ce matin, un autre grand achat territorial qui a été fait par les États-Unis, c'est l'Alaska, et ça s'est fait en 1867, au moment où le Canada...
Ben oui, quelques mois avant la formation du Canada. Et ce qui est intéressant dans ce dossier-là, le président en question, Donald quelque chose, c'est quelqu'un qui a énormément de projets, d'idées, souvent saugrenues. Vous en avez parlé, il veut prendre le Groenland, bon, le canal de Panama, un peu tout. Mais en 1867, les Américains avaient passé un marché, et ça, c'est une des parties intéressantes de l'affaire, avec leurs futurs ennemis jurés, la Russie, pour acheter l'Alaska, qui est devenu aujourd'hui un des États américains. Si vous regardez sur une carte, l'Alaska, c'est vraiment très près de l'extrémité orientale de la Russie. Il y a un petit bras de mer qui s'appelle le détroit de Bering qui sépare les deux. À certains points, il y a moins de 100 km entre l'Amérique et l'Asie. D'ailleurs, pendant des milliers d'années, le niveau des mers était plus bas qu'il ne l'est aujourd'hui et les deux continents étaient reliés. Et c'est par là, selon les meilleures estimations qu'on a, que les ancêtres des premiers peuples de l'Amérique seraient arrivés sur le continent pour ensuite se répandre dans toutes les directions sur une période qui a duré des milliers d'années. Aujourd'hui, on a un détroit entre la Russie et l'Alaska, qui était donc un détroit entre la Russie et la Russie au 18e et 19e siècle. Le tsar Pierre le Grand va mandater un navigateur danois du nom de Vitus Bering, en l'honneur de qui on a nommé le détroit, de faire de l'exploration dans l'océan Pacifique Nord pour le compte de l'Empire russe. Et dans les années 1740, on déclare que l'Alaska appartient à la Russie, selon cette bonne mentalité coloniale, voulant que c'était un territoire vierge, donc on pouvait juste se l'approprier si on était les premiers à le réclamer.
Et c'est ça que Donald Trump... j'ai dit son nom. C'est lui dont vous parlez?
Ben oui, je pense que c'est lui, effectivement.
OK, c'est lui qui veut se réapproprier la méthode?
Ben voilà, il y a un parallèle à faire parce qu'effectivement, le Groenland, c'est une immense masse de terre très faiblement peuplée et l'Alaska, c'est encore assez peu peuplé, mais à l'époque, c'était pas une terre vierge, mais il n'y avait pas grand monde, il y avait des premiers peuples relativement nomades, tout ça. Donc, entre les deux, on voit qu'il y a une correspondance, là, même si je ne suis pas sûr qu'il le fait dans cet esprit-là. Enfin, qui peut dire de toute façon dans quel esprit il fait les choses? C'est un autre dossier. Ce n'est pas le sujet de ma chronique d'aujourd'hui.
Mais c'est tentant, hein? C'est tentant,
oui,
Marcel.
Toujours,
hein?
Il nous fait toujours dévier, il nous fait toujours faire des apartés, ce monsieur. À la toute fin du 18e siècle, le nouveau tsar de Russie, il s'appelait Paul, celui-là, a créé une compagnie de la couronne, la compagnie russo-américaine, qui avait pour mandat de faire le commerce des fourrures et de coloniser le territoire de la Russie d'Amérique. On a également des missionnaires orthodoxes qui débarquent en Alaska pour convertir les populations locales. Bref, c'était exactement ce que bien d'autres grandes puissances ont fait dans bien d'autres colonies, dont la France en Amérique du Nord. Et là, comme dans la plupart des autres terres colonisées par des empires européens, les populations autochtones ont tiré certains bénéfices du commerce fait avec les colonisateurs, mais ils ont aussi beaucoup souffert. Ils ont attrapé également beaucoup de maladies apportées par les Européens, comme nos Autochtones qui se trouvaient plutôt dans l'Est de l'Amérique où nous on vit présentement. Les commerçants russes étaient surtout installés dans les îles et les zones côtières, d'où ils faisaient le commerce des fourrures avec les locaux. Et c'est de là que vient la frontière assez particulière entre l'Alaska et le Canada d'aujourd'hui. L'État est frontalier du territoire du Yukon, mais on a une bande de terre qui descend vers le sud, le long de la Colombie-Britannique. Les Russes avaient décrété que la zone côtière était à eux jusqu'au 55e parallèle. Mais cette colonie de l'Alaska, ça coûtait très cher à maintenir. La capitale de l'Empire russe se trouvait à Saint-Pétersbourg, c'est à des milliers de kilomètres de là. Les communications avec les autorités étaient extrêmement compliquées. Au départ, quand on a commencé à s'intéresser à ce territoire-là, il n'y avait personne aux alentours. Les Anglais, les Français étaient vraiment dans l'est de l'Amérique du Nord. Les Espagnols étaient beaucoup plus au sud. Mais rendu au milieu du 19e siècle, on voyait les autres puissances se rapprocher. Il y avait la compagnie de la baie d'Hudson, des Britanniques notamment, qui avait une forte présence dans le nord du continent. Les populations d'animaux à fourrure étaient en chute libre à cause de la surchasse. Il était évident qu'on n'allait pas peupler l'Alaska de ressortissants russes. Le territoire n'en a jamais compté plus de quelques centaines. Et la crainte qu'on avait, bien, c'était de se faire prendre ce territoire qu'on n'aurait pas pu défendre. Ça aurait été une proie facile, l'Alaska, pour les Britanniques ou les Américains. Donc, pourquoi pas vendre la place plutôt que de risquer de la perdre sans compensation? Et dès le départ, c'est vers les États-Unis qu'on se tourne. C'est à eux qu'on voulait vendre. À cette époque-là, il y avait une forte rivalité entre la Russie et la Grande-Bretagne. On jouait dans les mêmes eaux en Europe. Il y avait eu la guerre de Crimée dans les années 1850, où la Russie avait été vaincue par une alliance entre l'Empire ottoman, la France et la Grande-Bretagne, une guerre très sanglante d'ailleurs. Et à ce moment-là, les États-Unis, c'est encore une puissance régionale. Ils n'avaient pas commencé à se répandre hors de l'Amérique. Donc, les Russes, qui pouvaient choisir qui serait leur nouveau voisin, préféraient que ce soit les Américains. Il y aura des négociations dans les années 1850, mais la situation politique aux États-Unis n'est pas propice à un projet pareil. Les États du Sud s'apprêtaient à faire sécession. Le pays a été déchiré par une guerre civile de 1861 à 1865. Mais une fois le conflit terminé, on retourne voir les Américains et ça va se faire très rapidement. Le 30 mars 1867, la transaction est conclue. Un territoire de près d'1 600 000 km² venait de changer de propriétaire au terme de discussions qui n'ont même pas duré un mois. Le prix de vente, 2 sous l'acre, pour un total tout à fait dérisoire à nous en 2025 quand on regarde ça, 7,2 millions de dollars. Et je vous dis souvent que c'est pas une bonne mesure de prendre des sommes d'autrefois et de la convertir en valeur d'aujourd'hui. 7,2 millions de dollars de 1867, c'est environ 130 millions de dollars de nos jours. 130 millions, évidemment, il y a des PDG de grandes entreprises qui gagnent plus que ça au cours d'une année seulement en salaire. Mais, évidemment, à l'époque, personne ne gagne des montants semblables et on ne voyait pas des transactions pour des millions de dollars à ce moment-là. Donc, c'était un très gros montant. Je pense quand même qu'on peut dire que ça a été un bon marché pour les Américains qui gagnaient une ouverture vers l'Asie, qui obtenaient un territoire additionnel. On aime toujours s'agrandir. C'est un beau doigt d'honneur à la Grande-Bretagne et on pensait que cette addition territoriale allait en entraîner d'autres. Il y a plusieurs journaux aux États-Unis qui se sont prononcés en faveur de l'achat de l'Alaska en disant que ça allait favoriser l'acquisition de la Colombie-Britannique qui se trouvait maintenant en tenaille entre les États-Unis et les États-Unis. Et du point de vue russe, bon, on aurait probablement pu obtenir plus, mais en même temps, on vendait un territoire sur lequel on avait posé le pied et décidé que c'était à nous. Quand on vend quelque chose qu'on n'a pas acheté nous-mêmes, on ne ressent peut-être pas la même pression d'obtenir le prix maximum. Mais en tant que tel, sur le coup, les Américains obtenaient surtout un grand territoire vide. La Russie d'Amérique comptait environ 60 000 habitants répartis sur cet immense territoire. La grande majorité d'entre eux étaient des membres des Premières Nations. Il y avait essentiellement 2 villes en Alaska. Et certains se sont moqués du secrétaire d'État américain, le ministre des Affaires étrangères, si vous préférez, William Seward, qui avait été au centre de l'affaire. On surnommait l'Alaska la glacière à Seward parce qu'on venait d'acheter 1,5 million de kilomètres de glace, de neige et de forêt. Mais en général, l'opinion publique était favorable à l'achat. Les ressortissants russes ont quitté assez rapidement. Il n'y a pas de colonie russe véritablement qui demeurait en Alaska après la passation des pouvoirs entre les deux pays. Ce qui reste de cette colonisation-là aujourd'hui, bien, il y a beaucoup de gens des Premières Nations en Alaska qui pratiquent toujours le culte russe orthodoxe amené par les missionnaires. Sinon, il n'en reste pas grand-chose. Et, Francine et Yvan, cet épisode-là, c'est un exemple patent du fait que la géopolitique, c'est une science inexacte. Les Américains pensaient cueillir la Colombie-Britannique comme un fruit mûr, mais 4 ans après la transaction, la colonie a joint le Canada, dont elle fait toujours partie. Mm-hmm. Et les Russes, qui ne voulaient pas avoir leur grand ennemi à leur porte dans l'Arctique, s'ils avaient pu entrevoir, évidemment, la guerre froide, la division du monde entre Soviétiques et Américains, ils auraient probablement vendu à n'importe qui d'autre que les États-Unis. Mais ça s'est fait, Les États-Unis sont devenus le 49e État américain en 1959, quelques semaines avant qu'Hawaï ne devienne le 50e, et on attend toujours de connaître l'identité du 51e.
Oui, mais pour ce qui est de l'Alaska, je pense que c'était tout simplement une démarche préliminaire à un développement d'une amitié très grande entre les États-Unis et la Russie.
Où ça a pris beaucoup de temps. Ça aussi, je pense pas qu'on aurait pu pressentir justement ce président-là dont on parlait tout à l'heure et à quel point il aurait un genre de bromance avec le président russe, dont j'oublie également le nom d'ailleurs.
Ah, Marcel, votre mémoire, là, il va falloir travailler ça cette semaine.
Moi, c'est les vieilles choses dont je me rappelle, les affaires actuelles.
c'est ça. Alors, ben merci beaucoup, Marcel. C'était très éclairant et intéressant compte tenu du contexte qu'on vit présentement. Et bien, on se retrouve la semaine prochaine. Avez-vous écouté le hockey, vous, hier?
J'ai raté ça, malheureusement.
Ah, c'est pour ça que vous n'avez pas répondu à mon courriel.
C'est probablement ça.
Bon. Alors, bonne journée et à la semaine prochaine, Marcel. Merci.
À la semaine prochaine.